Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons déjà commencé la dernière fois le chapitre 3 de cette partie introductive, donc la page 17, 18, 19 de votre polycopié. Je vais reprendre un tout petit peu l'ensemble du mouvement pour que l'argumentation de fond vous reste bien présente, bien présente à l'esprit. Donc dans un premier chapitre, j'avais montré que la confession de foi, donc le symbole de Nicée-Constantinople, est ouverte à l'historicité culturelle des êtres humains. Et cela pour deux raisons. D'abord, évidemment, au centre du symbole, il s'agit du lien entre le Christ et tout homme. Donc tout homme, pas uniquement du 4e ou du 1er siècle, mais de toute l'histoire. Mais aussi parce que les concepts organisateurs du symbole de Nicée-Constantinople, je veux dire les concepts anthropologiques de vie et de logos, sont essentiellement des concepts historiques et évolutifs et qui changent de sens, évidemment, qui se modifient à travers l'histoire. D'où la tâche de l'anthropologie théologique, et j'avais mis théologique en position d'adjectif de l'anthropologie théologique, de tenir ensemble l'homme dans l'histoire du salut, telle que la Bible nous propose cette histoire, et cette histoire telle qu'elle est codifiée, si je puis dire, par le credo, et de l'autre côté, l'histoire du salut de l'homme, dans l'histoire culturelle de l'humanité, de maintenir cela ensemble. Ça, c'est l'enjeu. Ce qui nous a conduit la dernière fois, dans les chapitres 2, et ce sera aussi l'enjeu du chapitre 3, de nous interroger sur la difficulté de l'homme moderne de reconnaître et d'accueillir la proposition chrétienne du salut. J'avais proposé une double analyse, une première analyse qui part des difficultés internes et des conversions, vous vous rappelez, c'est le terme de Bernard Cesboué, du discours chrétien du salut, pour rejoindre les données de l'anthropologie contemporaine. Donc il y a là une première difficulté, une difficulté interne, je n'y reviens pas. J'avais cité René Girard, vous vous rappelez. Et ensuite, il y a une autre analyse, un autre type d'analyse qui part de la situation de l'homme, qui ne part pas du credo ou du donné de la tradition chrétienne et biblique, mais qui part de la situation de l'homme dans la société, la nôtre, société que j'ai caractérisée comme société néolibérale, pour montrer les difficultés avec l'affirmation centrale du credo, toujours cette même affirmation du « pour nous », pour nous et notre salut, il est descendu du ciel. Voilà, si vous voulez, j'ai dit, ça c'était déjà un peu, j'ai dit, l'essentiel des deux premières séances. Il faudra maintenant prendre à bras le corps, c'est l'endroit, c'est l'enjeu du chapitre 3 et du chapitre 4, cette difficulté entre l'anthropologie et l'adjectif donc théologique, et montrer à la fois les lieux et les moments de leur séparation, et éventuellement de leur réarticulation possible aujourd'hui. Et c'est là où, dans le chapitre 3, je suis parti la dernière fois du point de départ avec la figure de Ludwig Feuerbach, 1804-1872, et j'espère que vous avez déjà pu lire un peu le texte qui se trouve dans l'annexe, l'extrait donc de votre polycopié. Donc je reprends très rapidement l'essentiel pour ensuite aller plus loin, parce qu'évidemment, à partir de cela, à partir de la figure de Feuerbach, on peut assister à une histoire, la lente constitution d'une anthropologie profane après Feuerbach, avec plusieurs problèmes, et ensuite je vous propose quelques modèles je dirais, d'articulation, de réarticulation, au fond, comment la théologie, l'anthropologie théologique peut-elle résister dans une situation actuelle devenue passablement plus complexe. Donc on va essayer, je vais essayer de terminer aujourd'hui cette introduction, l'ensemble, et après on va entrer dans des analyses, je dirais, plus historiques. Alors d'abord, je dirais, donc le point de départ, Ludwig Feuerbach, vous rappelez de la thèse centrale, l'essence de la religion, c'est l'homme, donc c'est là où commence ce qu'on appelle en philosophie de la religion vraiment un tournant anthropologique, anthropocentrique même, et le christianisme et la religion, où le caractère humain de Dieu a été poussé jusqu'au bout, d'où finalement le titre définitif de l'ouvrage, non pas l'essence de la religion, non pas Gnotis Auton, qui était le premier projet, mais l'essence du christianisme. Et au cœur de cette analyse, il y a donc l'idée, je dirais, de projection, au fond la religion et même le christianisme est une projection de l'homme divisé, scindé en lui-même, il projette à l'extérieur de lui-même sous forme d'un double ce qu'il est ou ce qu'il aimerait être. Et c'est précisément cette projection que Feuerbach appelle foi et qu'il identifie à la déraison. La foi comme déraison, comme acte de projection. Le double, l'homme projette à l'extérieur de lui-même un double de lui-même et il en a besoin de faire cela. C'est un acte nécessaire, au moins dans la période de l'enfance de l'humanité, parce que en projetant à l'extérieur un double de lui-même, il découvre aussi progressivement ce qu'il est. Et pour le christianisme ou pour la tradition biblique, c'est évidemment la double figure d'Adam, et du nouvel Adam qu'est le Christ. Alors Feuerbach va beaucoup s'attacher, j'ai démontré ça un tout petit peu à la page 20, si vous suivez un tout petit peu donc le développement assez logique, je l'espère, du polycopier, donc à la page 20, donc il se situe dans le passage du paganisme au christianisme. Et il caractérise donc le paganisme essentiellement, je dirais, comme l'intégration de l'individu dans une totalité, la totalité du genre, le genre humain. Voilà la formule. Pardon, je disais la page 20, je voulais dire la page 18, évidemment. Voilà, vous l'avez repéré. Donc, à la page 18, le paganisme se caractérise par la subordination de l'individu au genre. L'individu est compris comme partie d'une totalité et ne trouve la plénitude de la félicité que dans cette totalité, qu'il s'agisse de la polis aristotélicienne ou de la cité universelle des stoïciens. Voilà donc, au fond, la thèse principale. Et cette intégration, je dirais, du petit homme, de l'être humain, est un chemin, un débat, évidemment, une éducation, une paideia, on reviendra à ce terme, de la pulsion de l'amour, donc l'éros, d'un côté, et de l'autre côté, la pulsion, je dirais, de la culture. Et le passage à la tradition biblique, et notamment au christianisme, ne se fait plus sous forme, je dirais, d'une subordination, mais il s'agit d'un rapport d'identification, désormais, du genre et de l'individu. C'est le cœur même de la théologie de l'incarnation, selon Feuerbach, c'est la figure du Christ, le Logos, devenu chair ou sensibilité, qui est désormais la figure d'identification. Et les chrétiens sont, au fond, je dirais, d'autres Christ, c'est-à-dire ils incarnent à leur tour ce genre que Feuerbach appelle genre asexué. Donc vous avez ça un tout petit peu plus loin. L'identification entre l'individu et le genre conduit à la transformation de la sexualité humaine par le caractère asexué du genre. Et il cite évidemment ici ce texte tout à fait central auquel nous reviendrons, Galates 3, 26, 28, c'est-à-dire qui est un texte central parce qu'il institue en quelque sorte en christianisme les états de vie. Il détermine toute la distinction entre, évidemment, l'état de mariage et l'état de célibat. Ces versets auront une très longue histoire. Mais vous avez aussi, évidemment, la pulsation, dit Feuerbach, la pulsation culturelle conduit jusqu'au bout, comme s'il y avait dans ce texte paulinien une sorte de naissance d'une civilisation déjà mondiale de l'œcuménée. Il n'y a plus ni juif, ni grec, etc., etc. Voilà donc, si vous voulez, c'est le processus, je veux dire, de projection et le travail sur ces deux pulsions que permet la projection que Feuerbach analyse dans l'essence du christianisme. Mais évidemment, selon lui, cette essence du christianisme, c'est un christianisme, je dirais, qui est lié encore à l'âge de l'enfance, de l'humanité, et il faut sortir désormais de la projection. Et donc ça, c'est l'ultime étape. Il faut dénoncer la foi comme des raisons et inverser en quelque sorte l'aliénation, récupérer ce qui est à l'extérieur de l'homme comme double, sous forme de double, à l'intérieur, je dirais, de lui-même. Il s'agit de comprendre la déraison qui est cachée dans la tradition chrétienne, la comprendre et l'inverser. Alors c'est lié évidemment chez Feuerbach à toute une analyse de la civilisation du XIXe siècle, aux avancées progressives, je dirais, des sciences, à la capacité de l'être humain de dominer désormais réellement la création. Alors il a été dominé par elle, et au fond le mécanisme de projection, c'est au fond rien d'autre que l'expression de la faiblesse de l'homme au sein même de la nature. Alors ce qu'il faut sans doute, je dirais, je termine par là cette rapide reprise, ce qu'il faut sans doute bien retenir ici, que c'est quand même dans l'esprit de Feuerbach un projet humaniste d'éducation et de libération par l'explication des mécanismes d'aliénation. Le renversement, vous avez ça à la page 19, de la réalité dans la religion et le christianisme appelle le renversement du renversement et exige la capacité de recueillir le véritable héritage anthropologique du christianisme. Et c'est donc ce qu'il appelle, et là il faut lire le texte que je vous ai donné, le christianisme initie le passage de la foi à l'amour, de la foi à l'amour et donc de la théologie à l'anthropologie. C'est au fond, je dirais, l'enjeu principal du christianisme. Si on lit un livre comme celui de Marcel Gauchet, je crois que je l'ai déjà cité, « Le christianisme comme religion, de la sortie de la religion », vous avez finalement, je dirais, là, la même thèse où je viens de re-regarder de nouveau de Jean-Marc Ferry, « Les lumières de la religion », entretien chez Bayard avec Élodie Moreau, c'est excellent, c'est très intéressant, mais vous trouvez là exactement la même thèse. Donc Feuerbach a eu vraiment, je dirais, des successeurs. Il y a une structure d'argumentation, j'espère que vous l'avez bien saisie, c'est ça qu'il faut retenir, une sorte de d'athéisme, une soteriologie profane, athée, qui remplace la sotériologie chrétienne. Je vous ai donné ici un texte de Freud, parce que Freud, évidemment, d'une manière infiniment plus complexe et d'une manière clinique, parce que Freud est en relation avec des êtres humains concrets, psychiquement malades. Mais l'idée fondamentale est de nouveau la même, notamment, je dirais, dans ses grandes conférences sur la psychanalyse et dans son ouvrage « Moïse et le monothéisme », etc. Je vais vous donner une seule citation. « La religion, quand on tente de déterminer sa place dans l'histoire de l'évolution, n'apparaît pas comme une durable acquisition, mais comme le pendant de la névrose par laquelle l'homme doit inévitablement passer sous la voie qui mène de l'enfance à la maturité. » Donc, Freud dit d'une autre manière ici, et dans son vocabulaire et dans son champ de recherche, aussi le caractère inévitable de la religion, comme l'affirme aussi Feuerbach dans la première partie de son volume sur l'essence du christianisme. Voilà, c'est une figure d'argumentation qui habite évidemment beaucoup, beaucoup de nos contemporains à l'heure actuelle. Sorte de christianisme humaniste, de ceux qui continuent à s'appeler culturellement chrétiens, sans avoir aucun lien, j'y dirais, direct avec, j'y dirais, le vivier vivant que représente l'écriture et la tradition. Donc ça, c'est, si vous voulez, je dirais, un peu le point de départ. Alors maintenant, on va regarder dans un deuxième temps, donc des pages 19 à 22, on va regarder un peu quelques éléments, je veux dire, comment au fond, à partir de cela, de Feuerbach, se constitue progressivement une anthropologie que j'appelle anthropologie profane. C'est provisoire comme expression pour bien faire une distinction par rapport au théologique proprement dit. C'est une anthropologie qui élimine complètement, ou prétend, disons, d'éliminer complètement le théologique. Alors, il y a plusieurs questions ici à aborder. Il y a d'abord, évidemment, une distinction qui est déjà présente chez Feuerbach entre l'empirique et le philosophique. Vous voyez, quand Feuerbach analyse à partir des textes les pulsions, la pulsion sexuelle, la pulsion de l'amour, en se référant ici au mythe de Diotime, et quand il parle d'une pulsion culturelle, il se situe déjà sur un espace qu'on pourrait appeler empirique, et qu'il faut distinguer maintenant d'une approche proprement philosophique. Ça, c'est un premier point. Et alors ensuite, je dirais évidemment, c'est la corporéité, nous allons voir pourquoi, qui va entrer au centre de l'intérêt et va poser quelques problèmes à la théologie. La corporéité. Et finalement, à partir de cela, on va revenir au problème, je dirais, proprement théologique. L'homme peut-il devenir humain sans Dieu? Vous vous rappelez, c'était notre point de départ. Ça reste la question. Peut-il devenir humain sans Dieu? Doit-il devenir humain sans Dieu? Comment comprendre maintenant aujourd'hui une telle formule? Alors d'abord, l'empirique et le philosophique. Feuerbach développe sa critique de l'anthropologie théologique et son projet d'un humanisme profane devant l'arrière-plan des sciences de la nature. Donc le problème de la connaissance de l'univers, de la domination de l'univers par la technique. Alors, quelques décennies après, et déjà pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est les sciences humaines qui vont se former. Et finalement, selon deux figures, une figure première au XIXe siècle et au tournant du XIXe au XXe siècle, et ensuite, alors, progressivement, la figure actuelle. Et il reste ici un auteur indépassable à mon avis, et je vous ai donné un extrait, Les mots et les choses de Michel Foucault, 1966, qui fait donc l'histoire au fond de cette mutation par rapport à l'homme qui s'est produit dans deux phases, comme il le montre très très bien après les Lumières, la fin du 19e et ensuite le 20e. Voilà un peu, je dirais, le cadre global. Donc, on se situe désormais dans les sciences humaines. Il va intervenir ici un pluriel. Vous voyez, chez Feuerbach, on a encore l'impression l'anthropologie est une, vous voyez. Et l'homme, c'est au fond le bourgeois européen, pourrait-on dire, grosso modo. Voilà. Alors là, on entre, je dirais, avec Michel Foucault, dans une conscience aiguë de la pluralité culturelle. Et c'est à l'arrière-plan, il y a la figure de Lévi-Strauss, on y reviendra plus tard, évidemment. Donc, une conscience aiguë de la pluralité, et il va aussi loin qu'il dit, au fond, je dirais, la figure de l'homme, ce qu'on appelle l'homme, homo, en Europe, la Grèce d'un côté, le christianisme, le judaïsme de l'autre côté, c'est au fond fini, n'est-ce pas? Il va nous parler, c'est la page 398, pour la première fois apparaît ici l'idée de la mort de l'homme, n'est-ce pas? La mort de l'homme, dans le pluriel. L'homme n'existe pas. Il y a des êtres humains et il a des traces. Et c'est ces traces, je dirais, qu'on peut repérer dans l'histoire et aujourd'hui qu'on peut analyser, et c'est sur ce plan-là qu'il se situe d'abord, c'est-à-dire sur le plan empirique. Et donc on va retrouver ici un concept, ou je dirais on va rencontrer ici un concept, l'anthroposphère, vous voyez, qui est un concept important, hein. C'est-à-dire c'est au fond, je dirais, sur notre globe, parmi les vivants, il y a les vivants humains, voilà, et qui constituent une sphère, je dirais, de la réalité, l'anthroposphère. Et elle est abordée par trois sciences humaines qui se constituent déjà, je dirais, à la fin du 19e siècle, hein, la psychologie, la sociologie et la science de la culture, voilà, progressivement. Et il se greffe au fond, et ça fait apparaître un problème que Feuerbach ignorait complètement quelques décennies avant, il se greffe sur trois sciences, autres, la biologie pour la psychologie, la sociologie sur l'analyse économique qui existe depuis évidemment le XVIIIe siècle, je dirais déjà, les premiers libéraux, etc. Et la science de la culture qui se construit à partir de l'analyse linguistique. Donc il y a des déplacements, il y a des sciences, si vous voulez, originaires, si je parlais ainsi, matricielles, et c'est à partir de ces sciences vont se former progressivement les sciences humaines qui vont ensuite suivre leur propre évolution, donc la psychologie, la sociologie et la science de la culture. Et il y a, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, des paires de concepts qui vont émerger ici et qui vont beaucoup nous intéresser dans la suite et qui d'une certaine manière vont concrétiser, voyez, ce couple très classique que j'ai cité dès le départ de nouveau ce soir, bios, vie, et logos. Bios et logos, toujours les deux. Donc, pour la psychologie, c'est les deux concepts centraux de fonction et de normes. C'est-à-dire, on peut analyser l'être humain, d'abord, je dirais, d'un point de vue biologique, selon les différentes fonctions, la fonction nutritive, la fonction de transmission de la vie, fonction sexuelle, etc. Et en même temps, apparaît, je dirais, des régulations qui sont de type culturel, qui sont de l'ordre normatif, vous voyez, des normes plurielles, évidemment, selon les cultures, radicalement plurielles. Alors, la tradition biblique parle ici peut-être peut-être de nomos, n'est-ce pas, sous forme grecque, la loi. La loi. Donc, fonction est énorme. Alors, dans la sociologie, basée sur l'économie, c'est les problèmes conflictuels qui vont intervenir. Alors ça, c'est tout à fait central. Tout à fait central, depuis Hegel. La notion de conflit, de violence, la sociologie qui met en valeur les conflits et leur régulation. Vous voyez, on ne parle pas de normes, mais on parle ici en termes de règles. Et dans la culture, ce qui est décisif, donc on va partir de la linguistique, c'est la question de la signification. La signification. Viendra le sens, la signification, et les significations, il faut toujours les rapporter à des ensembles, vous avez appris ça en linguistique, des ensembles culturels, un monde, voilà, voilà le monde européen, le monde de la culture française qui détermine, je dirais, donc comme dans une langue, l'ensemble des significations. La langue est un système. Voilà, donc ça c'est un deuxième élément bien à repérer, donc une greffe sur des sciences, au pluriel, des sciences qu'on pourrait appeler naturelles, et ensuite l'intervention d'une série de couples de concepts, et on est dans des sciences empiriques, donc l'homme est considéré comme objet de recherche. Il surgit, l'homme surgit, pourrait-on dire, ou l'être humain surgit dans les traces qu'il laisse et qui sont effectivement analysables. Donc c'est la notion centrale de trace. La biologie connaît, c'est paléontologie connaît bien cette notion de trace. Est-ce qu'on a des traces des dinosaures, n'est-ce pas ? Des traces. Alors, il faut tout de suite dire ici, avant d'engager une dernière étape, vous voyez, c'est un panorama, je dirais, très 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 bref, un raccourci évidemment, mais qui est précis en même temps. L'Église a tenu compte de la différenciation de l'anthroposphère, je crois qu'on peut l'admirer, ça, dans la constitution pastorale de Gaudium et Spes en 65. Les mots et les choses sont de 66. Donc vous voyez, c'est très intéressant d'observer ça. Ça veut dire qu'il y avait quand même une sensibilité culturelle très impressionnante, très impressionnante. Différenciation. Vous avez une première partie, l'Église et la vocation humaine. Et là, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est le débat avec Feuerbach, qui est à l'arrière-plan. C'est l'ouvrage du père de Lubach, n'est-ce pas, sur l'humanisme athée que vous avez... que je vous ai tout de suite indiqué au point de départ de ce chapitre à un moment donné. Vous allez retrouver la référence. Ça, c'est la première partie. Et vous avez évidemment, j'ai dit, un développement sur l'athéisme, sur l'autonomie de l'être humain, etc. Et la deuxième partie vous propose une anthropologie différenciée de quelques problèmes plus urgents. Et là, voilà, l'anthroposphère, mariage, famille, culture, vie économique et sociale, vie de la communauté politique, la paix et la communauté des nations. Jamais on n'aurait fait ça au XIXe siècle dans l'Église. Donc il y a déjà ici une sorte de sensibilité à ce pluralisme, et les rédacteurs de la Constitution sont parfaitement conscients du problème que pose le rapport entre l'empirique d'un côté et le philosophique. L'empirique et le philosophique. L'empirique, d'une certaine manière, est indéfini. Une fois que vous êtes rentré dans le pluriel, voyez, qu'est-ce que vous parlez en Afrique, en Inde, voilà, de quel groupe humain vous parlez, de quelle sphère du réel vous parlez dans l'anthroposphère. C'est extrêmement complexe. Est-ce que c'est encore possible d'unifier, voyez? Alors, troisième et dernière étape ici, les évolutions plus récentes. Donc, vous voyez, les sciences et ce qu'on appelle maintenant le post-humanisme, donc les évolutions, comme vous voulez, récentes. Je vous ai donné une référence, Jean-Michel Beignet, « Demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous, 2010 ?» Voilà. Alors, on est ici dans l'héritage direct de Michel Foucault. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'héritage direct. Donc, Feuerbach, Foucault, j'ose à peine dire ici maintenant Jean-Michel Beignet, parce que c'est évidemment pas du niveau de Michel Foucault. Mais voilà, c'est pas la question. Alors, il y a plusieurs terrains, et là vous avez un dernier éclatement auquel nous assistons aujourd'hui dans nos sociétés, et qui dit évidemment l'extrême complexité de la situation dans laquelle nous trouvons. Vous avez d'abord les études du genre, donc avec les gender studies, nées aux États-Unis. Je vous ai mis la date de Judith Butler, évidemment Bachelor, 1990. Et donc ce sont des études qui sont nées, évidemment, qui ont été provoquées par ce qu'on appelle les minorités sexuelles, les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels, pour défendre d'abord leur situation de minorité. Donc il ne faut pas oublier cet enracinement militant, le lobby gay, etc., etc. Donc ça, c'est le point de départ. Et ça se greffe, je le disais à l'instant, évidemment sur Michel Foucault. Si vous revenez tout en haut de votre page au couple de notions, de concepts, fonctions, normes, conflits, règles, signification, système, vous avez ici ce que vous n'avez pas directement de cette manière-là chez Michel Foucault, une analyse des normes, des règles et des systèmes culturel sous l'angle politique de la domination et de l'imposition d'un modèle unique d'ordre hétérosexuel. Voilà, c'est ça au fond, je dirais, le fin fond du débat auquel nous venons d'assister ou continuons à assister, je dirais, dans la société française. J'y reviendrai plus tard, mais plus largement en Europe et aux États-Unis où c'est déjà allé beaucoup plus loin. Donc c'est au fond la question, quelle est la place des normes, des règles et finalement du système culturel. Et apparaît derrière, je vous ai déjà parlé, si vous voulez, j'ai dit à la thèse catholique et sa mise en difficulté, hein, c'est dès qu'on parle de droit naturel ou de loi naturelle, vous voyez, j'ai dit, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on par rapport à ce nouveau système de référence? Vous comprenez tout de suite la difficulté. Donc, on analyse donc les normes, les règles, les systèmes culturels, et on distingue ici, et c'est ça la thèse anthropologique, on distingue, je ne dis pas qu'on sépare, il faut rester très nuancé ici, parce qu'on a beaucoup assisté les dernières années à des procès de tendance, vous voyez aussi. Pas séparation, distinction entre la matérialité du corps sexué et ce qu'on pourrait appeler son enveloppe normative. Enveloppe, vous voyez, son vêtement, pourrait-on dire, utiliser cette métaphore, cette symbolique, son enveloppe normative et qui est culturelle. Le genre. Voilà. Vous voyez, le terme n'a plus du tout ici la même signification que chez Feuerbach. Je vous avais averti la dernière fois. Il a bougé considérablement ici. On est peut-être au niveau des pulsions, pourrait-on dire, mais les pulsions interprétées culturellement, c'est ça les sciences humaines. Les pulsions interprétées culturellement. Le genre, c'est au rôle ou masque social et culturel. Le rôle ou le masque social et culturel. Donc, l'identification culturelle de la matérialité du corps sexuel. Et la thèse ici derrière, c'est livrée à la décision et à la construction humaine. C'est-à-dire la culture est une construction. Est une construction humaine et donc objet de débat et de libération. Et c'est là où intervient la thèse de l'égalité à laquelle on a assisté, évidemment, et donc un combat politique, je dirais, de libération, c'est-à-dire de libérer la culture française, par exemple, d'un unique modèle, d'un unique système normatif, régulateur et culturel, et d'y introduire l'égalité d'une pluralité, je veux dire de pluralité de modèles. Mais derrière, il y a l'idée de construction, c'est-à-dire la culture n'est pas œuvre uniquement de tradition, mais peut être politiquement manipulée. Manipulée, pas au sens négatif nécessairement du terme, c'est-à-dire transformée. Voilà, j'ai insisté un tout petit peu parce que c'est d'une brûlante actualité et donc il faut comprendre et pas trop vite, je dirais, faire des procès de tendance pour réfléchir évidemment à la question théologique. Alors ça c'est un premier terrain et ensuite vient un deuxième terrain, ce qui est derrière, c'est au fond la contestation de la frontière entre l'homme et l'animal sous des formes différentes. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est-à-dire quand on présente la théorie du genre, ou disons plutôt les études du genre, quand on présente ça aux enfants, j'ai vu, un petit album, il y a quelques jours, c'est absolument étonnant, vous voyez les hommes comme animaux, représentés comme des petits lapins, évidemment pour les enfants c'est plus accessible. Mais ça participe au fond, à ce retour, de toute une mythologie, où finalement la frontière entre l'être humain et le monde animal est contestée. Et vous avez au fond, deux manières. La première, c'est ce que j'appelais déjà là, tout à fait au début du cours, un monisme. Vous voyez, au fond, la dualité que vous sentez dans bios et logos est contestée. Donc, monos, voilà. Donc, ce qu'on appelle aussi l'homme exproprié, c'est-à-dire la contestation de la frontière entre le monde des animaux et des humains. Derrière, il y a une argumentation éthique post-humaniste, c'est-à-dire cette contestation est faite en vue d'un vivre ensemble non violent. Et on accuse évidemment le dualisme judéo-chrétien et cartésien d'avoir conduit l'exploitation du monde animal jusqu'au bout. Donc on appelle ça une sorte d'éthique, vous voyez, post-humaniste. Et l'autre versant de la contestation, c'est ce qu'on appelle non pas l'homme exproprié, mais l'homme augmenté. Ce sont toutes les techniques, vous voyez, les nanotechnologies, les biotechnologies, les robots et jusqu'à la manipulation génétique, vous voyez, il y a quand même là toute une ouverture incroyable et inimaginable d'une certaine manière qui est en train de s'ouvrir des possibles pour l'être humain. L'être humain, faut-il parler encore en ces termes. Et le troisième terrain, donc, à la page 15 de votre dossier, j'avais parlé de Ehrenberg. Vous rappelez, dans l'analyse un peu de l'homme libéral, la fatigue d'être soi. Et donc, il y aurait ici une manière de sortir de la fatigue d'être soi par toute une série de techniques. Elle est poussée jusqu'au bout. Et on retrouverait ici, au fond, une manière, si vous voulez, de revoir, des spiritualités orientales. La perte, la disparition du sujet. La volonté de se libérer du soi. Et de mettre en question, finalement, toutes les structures anthropologiques. Évidemment, il faut jamais, je viens de le dire, oublier derrière que toutes ces tendances ont évidemment, des implications économiques considérables. Et donc, il y a évidemment des lobbies financiers qui sont là derrière aussi. Il faut jamais oublier ça. Alors, question maintenant centrale, on va revenir progressivement, vous voyez, à la question philosophique et théologique. Est-il encore possible de dire quelque chose de l'homme, du genre humain, et de ce que traditionnellement en Occident on appelle l'humanitas. L'humanitas, c'est-à-dire une manière de vivre humainement, l'humanitas. Est-ce qu'on peut le faire encore? À partir de cette multiplicité de traces, ça c'est les sciences humaines, Michel Foucault et ses successeurs, et de perspectives, et après le passage à la limite de l'humain vers le post-humanisme qui est à nos portes. Alors je dirais, c'est pour ça que j'ai fait ce long développement, la question, je dirais, la plus fondamentale de l'anthropologie contemporaine. La question, au fond, qui traverse toutes les branches des sciences humaines et des nouvelles approches. Et c'est ici où réémerge, au fond, la question philosophique. Hein. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme que tu en prennes souci? Voilà, je reviens au psaume 8 avec lequel j'ai commencé. Parce que, et c'est ici qu'on peut, à mon avis, à juste titre, soit d'introduire ce qu'on pourrait appeler un argument transcendantal, bon, un Ranner fait ça, par exemple, ou de passer par la phénoménologie. Parce que on est ici devant un paradoxe très radical. C'est toujours l'homme qui se transforme lui-même en objet. Donc, il a son propre être à la fois dans le dos et devant lui, si je peux parler en métaphore. Devant lui comme un objet, il se traite lui-même, il se transforme comme objet de connaissance, les sciences cognitives, de manipulation, etc. Mais c'est toujours encore lui qui est en train de le faire. Un cercle indépassable et qui dit parfaitement le paradoxe, l'énigme, et on pourrait dire, finalement, dans une perspective biblique, le mystère de l'être humain. Le mystère de l'être humain. Une question, sans réponse. Il est dans ce cercle, en faisant de soi-même, voyez, j'ai mis ici cette formule qui résume un peu mon argument, ou qui est un argument que d'autres beaucoup utilisent. En faisant de soi-même un face-à-face analysable, l'homme est dans cet acte toujours déjà présupposé. Il se regarde comme objet, comme animal, biologique, social et culturel, objet analysable et pourtant sujet, émergent, voilà. Rappelez-vous, j'ai dit les trois humiliations que j'ai évoquées tout à fait au début du chapitre précédent. Donc la psychanalyse et l'histoire, les deux, dit Michel Foucault, s'interroge sur la signification de ce paradoxe d'un homme à la recherche de l'homme perdu, pourrait-on dire. Ça, c'est ma formule que je propose. L'homme à la recherche de l'homme perdu. Finalement, que signifie ce désir paradoxal d'avoir une doctrine, une anthropologie de l'homme qui fait de lui-même un objet? Quelle est la signification, le sens, voyez, là on peut maintenant parler de sens, le sens de cette opération. Et ne pourrait-on pas dire, c'est un peu mon soupçon, que la fin de l'humanisme, donc de l'humanitas, comme disent certains occidentaux, et le post-humanisme, ne serait-ce pas une manière d'arrêter cette recherche ? Finalement, par un retour aux sciences exactes, c'est-à-dire c'est le modèle des sciences exactes dans les sciences cognitives, l'empirisme qui veut prendre le dessus par la technologie humaine et finalement par le monisme. Et c'est une autre manière d'introduire un absolu finalement, un absolu. D'où le soupçon qu'on peut porter sur la prétention qu'on est ici en face d'une anthropologie réellement profane. Alors émerge ici, pour être un tout petit peu plus concret, parce que c'est cette thématique de la corporéité qui va nous accompagner beaucoup, quelques remarques sur cette corporéité qui émerge évidemment de plusieurs côtés dans ce paradoxe même anthropologique, Toutes les anthropologies profanes et la phénoménologie, bien sûr, avec ces distinctions entre corps et chair, s'intéressent finalement à la corporéité humaine et donc à l'articulation, je reviens à ma terminologie, entre vie et logos. Vie et logos. Alors, petit retour ici à Feuerbach. Important. Feuerbach avait compris la mort de Dieu comme substitution de l'absolu au profit de l'homme. Vous voyez, c'est l'idée du double. Au fond, Dieu est un substitut de l'homme. Et quand l'homme devient autonome, il n'a plus besoin de ce substitut. Voilà. Substitut. Et on pourrait dire, et ça c'est la grande critique au fond du père de Lubach dans l'humanisme athée, quand il analyse Feuerbach et d'autres, c'est-à-dire l'homme prend simplement la place de Dieu. C'est l'homme-Dieu qui prend la place de Dieu. Alors, l'anthropologie contemporaine de Foucault est, en 66 est parfaitement consciente de ce problème-là. Voilà. Pas toujours l'anthropologie post-humaniste. Elle conteste évidemment le schéma métaphysique lui-même, c'est-à-dire l'idée d'absolu. Donc l'idée derrière l'anthropologie post-humaniste et moderne, contemporaine, c'est au fond de créer une anthropologie sans absolu, de ne plus être dupe de cette idée de substitution. Ce schéma métaphysique, n'est-ce pas, à deux pôles, donc vie, bios et logos, on le retrouve dans les termes classiques du credo, le visible et l'invisible, le sensible et le suprasensible, le devenir et l'être, le corps et l'âme. Vous voyez, on ne sort pas, je dirais, de cette série de deux concepts. Il y a dans l'idée d'humanitas, et dont Feuerbach a encore hérité, il y a l'idée grecque de l'éducation. La paideia, l'éducation. Au fond, l'être humain naît comme petit homme et il doit traverser, sa vie est une traversée, cette tension du visible et de l'invisible, du ciel et de la terre, du corps et de l'âme, du sensible, du suprasensible, et doit exercer ce qu'on appelle techniquement une négativité, l'ascèse. Il faut travailler les pulsions, il faut travailler la vie. Une négativité par rapport à une spontanéité prime ou pulsionnelle pour permettre une traversée du premier pôle en direction du second, ou plutôt une formation, une mise en forme. Vous voyez notre idée de formation, une mise en forme du premier pôle à partir du second. Ça, c'est l'humanitas occidentale, la paideia, l'éducation, et que la tradition chrétienne a intégré et transmise à l'Occident et évidemment plus large. Et c'est l'absolu du logos, l'absolu de la rationalité transcendante à la phénoménalité de l'existence qui définit l'homme comme zoon logikon. Zoon logikon. Vous voyez, c'est ce schème-là, schème ascendant, pensez à l'ascension de Moïse, etc., chez Grégoire de Nice, vous voyez tous ces textes, au fond, l'échelle mystique, etc., tous ces grands textes spirituels de l'Occident sont, et je dirais de l'Orient chrétien, sont marqués par ce schème fondamental d'une ascension. C'est ce schème ascendant et hiérarchique de l'humanisation qui implique une certaine négation, un travail négatif du sensible et un travail ascétique que l'anthropologie contemporaine veut abolir. Vous voyez, c'est ça l'enjeu finalement. Pas de logique militante ou athée, évidemment, comme s'il suffisait de remplacer Dieu par l'homme. Ça, on est chez Feuerbach. L'enjeu est une toute autre vision de l'homme. Une toute autre vision de l'homme. Post-humaniste. L'anthropologie contemporaine part du constat de l'absence de l'absolu, de l'absence d'une structuration suprasensible de l'univers et de l'homme, de l'absence du genre humain au sens où Feuerbach a utilisé ce générique. Et donc, du coup, ce n'est plus l'homme, l'humanitas, qui est le référent ultime. Comme encore à l'époque de l'âge des Lumières ou chez Feuerbach. Mais le socle de la vie, le bios, la vie, la biosphère, l'anthroposphère à l'intérieur de la biosphère. La vie corporelle est une réalité pulsionnelle, inconsciente, infiniment créatrice et infiniment plus large que le corps individuel de telle ou telle personne. Et la rationalité, le logos, est elle aussi infiniment diversifiée, gardant évidemment une fonction régulatrice, sans être le lieu d'un absolu. Voilà, si vous voulez, j'ai dit la mutation, au fond, qui s'est produite. Hein, et il faut évidemment s'y affronter. Alors, c'est un changement de la vision de l'humain. L'homme, pourrait-on dire, est totalement inséré dans le devenir et le flux vital, seul espace de son existence sur un globe, voilà, devenu petit, dont il est donc la composante intelligente. Voilà. Alors, je souligne donc ici encore une fois cette thèse qui, à mon avis, résume ce qu'est devenu l'anthropologie contemporaine, et avec une citation de Nietzsche, qui est évidemment la référence postmoderne ici par excellence. L'homme est le fonctionnement conscient d'une pulsion inconsciente. Corps propre, il est corps propre, oui, qui émerge de la corporéité de l'univers. Ou comme dit Nietzsche dans Ainsi parla Zarathoustra, corps je suis, tout et tout entier, et rien dehors. Et rien dehors. Je, dis-tu, et tu es fier de ce mot, mais ce qui est plus grand, c'est ce à quoi tu ne veux pas croire, ton corps et sa grande raison. Elle ne dit pas je, mais fais-je. Voilà, je dirais, l'ultime mot, au fond, je dirais, de cette anthropologie avec laquelle il faut débattre, comme chrétien. Comme l'a fait Gaudium et Spes en 1965. Les pères conciliaires ont eu ce courage-là. Ils connaissaient pas encore, évidemment, toutes les évolutions de l'anthropologie. Il faut débattre avec ça. Alors, comment évaluer, donc, le caractère profane de cette anthropologie? Donc, 4 points, si vous voulez, de résumé, un peu d'évaluation maintenant. Elle indique, premièrement, un chemin d'humanisation ou, donc ça c'est Feuerbach, une manière post-humaniste de vivre sans Dieu. Une façon de participer, pourrait-on dire, à la créativité de la vie et en accepter. Et j'ai ajouté en aimant la finitude de la conscience et de la raison, parce qu'il s'agit de ça chez Nietzsche, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un ressentiment par rapport à la finitude, mais d'un acquiescement positif à la contingence de mon être, de notre être. Dans la mesure, maintenant vient la question centrale, où Dieu semble. Et vous voyez, je souligne ici le « semble ». Parce que maintenant, c'est la question de Dieu qui intervient ici. Qu'est-ce qu'on met derrière, finalement, le mot « Dieu » ? C'est pour ça que je l'ai mis ici, entre guillemets. « Semble être lié au suprasensible ou à l'intelligible, à l'être invisible. Cette anthropologie contemporaine oblige nos contemporains à renoncer à la croyance en Dieu pour devenir humain ou habiter le monde de manière post-humaniste. D'où la formule, je dirais, qui semble aller de soi pour beaucoup de nos contemporains, l'homme doit devenir humain sans Dieu. Sans ce Dieu, voilà, auquel finalement une longue tradition s'est identifiée, hein, en l'identifiant surtout à un des pôles, vous voyez, à un des pôles, bios logos. L'homme doit devenir humain sans Dieu. Profanité ou sécularité deviennent synonymes d'athéisme. Et du coup, c'est le vieux schème ici de Feuerbach qui renaît, et Jean-Luc Ferry, au fond, reproduit exactement ce type d'argumentaire. Vous voyez, c'est précisément à cet endroit, à mon avis, que l'anthropologie théologique est en droit de résister. C'est là. Mais il faut trouver ce point, évidemment. Et on va voir après, je dirais après la pause dans les différents modèles, je dirais qu'il fallait du temps pour trouver ce point, ce point. Elle est en droit de résister en disant apparemment l'homme peut devenir humain sans Dieu. Ce qui est très différent de dire doit devenir, peut devenir. Et je laisse là apparemment parce que qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire, on en parle ici comme des êtres, qui vivent depuis quelques générations, pourrait-on dire 3-4 générations, cette mutation. Mais que vont devenir nos sociétés? On n'en sait pas grand-chose finalement autour de cette question. C'est pour ça que je laisse le apparemment. Mais aucune anthropologie contemporaine ne peut l'obliger, l'homme, à devenir humain sans Dieu. Cette obligation tomberait immédiatement sous le coup de la critique de l'absolu par la même anthropologie contemporaine. C'est clair, à mon avis. Alors, il faut introduire ici, je dirais, quelques distinctions, tout de suite, vous voyez, pour établir un débat, je dirais, à un niveau égal, et une argumentation. On peut comprendre la difficulté de l'anthropologie contemporaine avec un spirituel et un logos ou une âme qui précéderait d'une certaine façon la corporéité. Là, on entre dans le mythe d'une certaine manière. On peut comprendre cette difficulté. Mais cette difficulté ne conduit pas nécessairement vers la négation de toute dimension spirituelle dans l'homme. Distinguer nettement entre l'obligation ou la nécessité d'un devenir humain sans ou avec devant Dieu et l'ouverture possible du spirituel dans l'espace de la corporéité. L'ouverture d'un spirituel dans l'espace de la corporéité. Voilà, si vous voulez, l'enjeu d'une anthropologie théologique. Alors, ce qui détermine bien la tâche de l'anthropologie théologique. Il faut que nous nous expliquions avec toutes les distinctions du symbole de Nicée-Constantinople, visible et invisible, mort et vivant, etc. Dualité, unité dans la corporéité. Et il faut protéger ces distinctions contre une interprétation dans le cadre d'un schéma métaphysique dualiste. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé dès la première séance, première quart d'heure, en parlant d'une ontologie relationnelle. Le corporel, le relationnel. Il faut donc montrer que Dieu ne nous fait pas sortir de l'espace-temps de la corporéité, mais donne à l'homme croyant, voilà la formule que je propose maintenant, d'habiter son corps et le monde d'une certaine manière. D'habiter le corps et le monde d'une certaine manière. Voilà l'enjeu d'une anthropologie théologique. Voilà, je vous propose de faire la pause, et après la pause, on va rapidement terminer cette partie d'introduction avec les modèles, et peut-être déjà un peu engager la première partie du cours avec un peu de travail biblique. Il y a un dernier point dans ce chapitre 3 dans lequel je vais vous proposer maintenant ce qu'on appelle des modèles d'articulation entre anthropologie profane et anthropologie théologique. Donc maintenant les données sont là, la question centrale est là, et donc si on regarde un peu, je dirais, l'histoire de la théologie maintenant, de l'anthropologie théologique au XXe siècle, XIXe, XXe siècle, on peut distinguer d'abord, je dirais, trois modèles. Petit A, modèle du refus réciproque. Petit B, modèle du modus vivendi. Voilà. Bricolage. De toute façon, on bricole. En théologie. Modèle généalogique. Alors, je vais le développer un tout petit peu. C'est celui qui a quelques promesses d'avenir, je pense. Alors ensuite, évidemment, je dirais dans le quatrième chapitre, on va prendre peut-être un peu conscience aussi des limites de ce modèle généalogique. Alors, le modèle du refus réciproque, c'est très simple. C'est au fond le modèle qui a dominé les rapports entre l'anthropologie et la théologie tout au long du XIXe siècle. Voilà. Et très largement au XXe siècle. Et c'est un modèle qui risque sans cesse de revenir. Parce que dès que, si vous voulez, derrière l'anthropologie profane, il y a évidemment la laïcisation de nos sociétés, la sécularisation. Et quand vous avez en face, je dirais, une anthropologie qui entre jusque dans les systèmes éducatifs, il faut jamais oublier ça, c'est-à-dire l'anthropologie, c'est pas quelque chose uniquement d'intellectuel, n'est-ce pas? Elle passe très rapidement dans nos systèmes éducatifs, surtout quand on a un ministère très centralisé de l'éducation, ce qui est le cas de la France, qui n'est pas le cas de tous les pays européens ou des États-Unis. Donc l'anthropologie passe. Les derniers cris vont se retrouver un an ou deux ans ou trois ans après dans les livres d'école. Et donc le problème, c'est que si on fait comprendre qu'on ne peut devenir humain qu'en abandonnant la référence à Dieu, bon, je veux dire, on est rapidement dans une situation combative, de refus, et on voit, je dirais, d'une manière très étonnante, les deux dernières années en France, par exemple, le retour d'un catholicisme politique, voilà, qui s'inspire au fond de ce modèle du refus réciproque. Il n'y a plus de débat possible, c'est-à-dire on s'affronte sur des convictions. Voilà. Donc c'est au fond, je dirais, une histoire de combat entre différentes disciplines anthropologiques et la théologie. On a une longue histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'affaire de Galilée, ensuite, je dirais, l'opposition au darwinisme, etc., etc. L'histoire des condamnations est longue, toujours sous forme d'isme. Dans la mesure où l'anthropologie profane prétend se substituer à la théologie et substituer l'homme à Dieu, donc la logique de la substitution que j'ai expliquée tout à l'heure, le refus semble être la seule solution. Voilà. Alors, on a ensuite, je dirais, un deuxième modèle, le modèle du modus vivendi, et qui a beaucoup d'importance, je dirais, dans la théologie catholique. Beaucoup d'importance. On suppose dans ce modèle une frontière nette entre deux perspectives. C'est au fond une sorte de perspectivisme. Ce modèle du modus vivendi ou modèle perspectiviste se trouve, on peut interpréter le Concile Vatican I dans ce sens-là. Chapitre 4 de la Constitution Dei Filius, pour ceux qui ont suivi la théologie fondamentale, vous avez ce chapitre 4 sur les rapports entre foi et raison. Foi et raison. Voilà. Deux perspectives différentes, le terme technique, duplex ordo cognitionis, les deux ordres de la connaissance. Donc ça suppose une frontière nette. Alors du coup, je dirais, on dira, l'anthropologie profane peut se saisir du statut religieux et croyant de l'homme. C'est évident. Vous savez, la psychanalyse peut atteindre des éléments étrangers à la fois. J'ai dit des éléments névrotiques dans la foi de quelqu'un, etc., dans les comportements, dans les expressions. Ce qui est éventuellement, oui, je l'ai marqué, névrotique ou des fantasmes introduits dans les représentations ou images de la foi. Mais évidemment, la psychanalyse peut jamais rencontrer la foi elle-même. Les traces, les manifestations, que ce soit de l'ordre, des phénomènes plutôt maladifs, ou que ce soit au niveau, de l'imaginaire religieux. Inversement, une anthropologie théologique peut évidemment, à ce moment-là, et c'est là où on entre dans le modèle du modus vivendi, se servir des sciences humaines. On a presque ici un rapport instrumental aux sciences humaines, ici, dans l'anthropologie théologique. Pour purifier, voilà, c'est ça la thèse, son propre discours. Vous voyez, on a eu un exemple avec l'analyse du père Sesbouy que je vous ai montré sur la déconversion. C'est un exemple type, je l'avais mis en relation avec René Girard, de ce modèle du modus vivendi. C'est-à-dire, il faut distinguer à l'intérieur de la foi chrétienne et de ses représentations entre ce qui est saint, saïen, et ce qui est de l'ordre de la déconversion qui est inacceptable. Et c'est au fond, on utilise les sciences humaines pour purifier le donné, de la foi. Mais évidemment, cette théologie, cette anthropologie théologique ne peut jamais se substituer aux sciences humaines, qui font de l'homme comme tel l'objet de leur analytique. Alors, le problème qui apparaît immédiatement ici, par rapport à ce modèle du modus vivendi, et c'est là où nous sommes conduits vers un troisième modèle, c'est la violation continuelle des frontières. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans l'anthropologie et dans notre être concret, séparer, si vous voulez, ou distinguer nettement entre un versant profane et un versant proprement, chrétien théologal, prenant le sens le plus fort du terme, théologal. C'est déjà le problème de la christologie, des deux natures, vous voyez. C'est-à-dire, que veut dire union hypostatique? Donc le problème, c'est pas la frontière nette entre les deux domaines, mais quelle est leur unité? C'est ça la question d'une anthropologie théologique. Le lien intime, intrinsèque entre anthropologie et théologique. Donc ça, c'est un véritable problème. Et si on distingue trop uniquement, si on insiste sur une frontière nette entre les sphères, on revient rapidement à un modèle dualiste, finalement. Et en même temps, quand même, c'est assez abstrait, ce modèle du modus vivendi. Alors du coup, émerge dans la théologie, après Vatican II, chez beaucoup de théologiens, ce qu'on appelle maintenant un modèle généalogique. Et donc pour le préciser, si vous voulez, il y a d'abord un premier point qui explicite un peu le principe de base de ce modèle, qui est un modèle historique. Et puisqu'il s'agit d'un modèle historique, alors il y a des temps dans ce modèle. Les quatre temps, ce sera mon deuxième point. Et je reviens évidemment à la question centrale, C'est-à-dire comment comprendre dans ce modèle l'adjectif théologique, n'est-ce pas, anthropologie théologique. Alors, ce modèle est basé sur ce qu'on appelle, maintenant vient de nouveau un terme technique, une homologie structurelle. Une homologie structurelle entre, d'un côté, l'anthropologie profane et l'anthropologie théologique. On ne peut pas les comparer terme à terme, les deux, mais dans les deux, il y a une même structure qui est à l'œuvre. Une homologie structurelle. On peut comparer les deux structures. Les deux disciplines adoptent en effet aujourd'hui, c'est ça le point de comparaison, une perspective généalogique. C'est-à-dire, ils s'interrogent sur la genèse de l'homme du côté de la tradition biblique. C'est la référence au premier livre, Genesis, la genèse de l'homme. Et on va bien, je dirais, tout est dans le premier livre de la Bible, y compris, je dirais, l'orientation sabbatique de l'être humain, c'est-à-dire son eschatologie, déjà. Tolédote dit-on en hébreu, c'est-à-dire le livre des générations, ou de la génération, pourrait-on presque dire, de l'être humain. Donc c'est la Genèse qui intéresse ici la théologie. Rappelons-nous de cette formule, Adam, comme disait Feuerbach, comme le député du genre, voilà, député du genre. Donc là, vous avez le filon, je dirais, de l'anthropologie théologique, donc l'homme vers son accomplissement, et du côté de l'anthropologie profane, c'est l'intérêt central sur la genèse de l'anthroposphère. Chez Lévi-Strauss, c'est clair, le rapport entre culture et nature, et encore ces concepts-là. Donc, il y a aussi, je dirais, l'inscription de l'être humain dans l'évolution de la vie, etc. On est aussi au niveau d'une genèse. Alors, une fois qu'on a un peu saisi ce principe de comparaison, alors maintenant, les quatre, comment opère ce modèle, hein, comment le rendre opérant dans l'anthropologie théologique? Les quatre temps du modèle généalogique. Alors, premièrement, je vais lire et commenter un peu ces formules qui sont précises. D'abord, la mise en relation structurelle de la genèse de l'homme selon le livre biblique. Et là, nous allons évidemment voir deux textes centraux qui se répondent. C'est l'Épître aux Romains, comme notre point de départ, et aussi dans une perspective œcuménique, et le livre de la Genèse. Et la genèse de l'homme telle qu'elle est esquissée dans l'anthropologie contemporaine. Voilà. Donc voilà, les deux. Donc la mise en relation structurelle. Ensuite vient le débat, si vous voulez, la confrontation des deux approches. La reprise de la structure biblique, et c'est là où intervient l'herméneutique, l'interprétation, la reprise de la structure biblique à l'intérieur de l'anthropologie contemporaine et profane. À savoir dans le cadre d'une anthropologie de la corporéité. C'était la fin du point précédent. La foi, voilà. L'homme croyant est une manière d'habiter son corps et le monde d'une certaine manière. Donc il s'agit d'inscrire au fond cette structure fondamentale de l'être humain dans son historicité, dans le cadre d'une anthropologie de la corporéité et non pas au sein d'une métaphysique de l'absolu. Là, vous comprenez maintenant ce que je dis par là, pour le moment. Troisième temps, l'enjeu de cette reprise ou de ce recadrage, alors ça c'est un terme qui va revenir de temps à autre, vous voyez, c'est, par exemple, on dit, je dirais, l'art de Jésus dans ses paraboles, on va le retrouver dès la première partie, hein, c'est d'avoir recadré le réel à partir d'une perspective tout à fait neuve, celle du royaume. Hein, recadrer notre regard sur l'être humain. Donc l'enjeu de cette reprise ou de ce recadrage est celui-ci. Au cœur de la généalogie biblique de l'homme se situe une conversion. Ce que la païdéia grecque dont j'ai parlé tout à l'heure voyait exprimer d'une certaine manière. Vous voyez cette idée de l'ascension que j'ai brièvement développée, on y reviendra. Voilà. Pas de vie humaine sans conversion. On pourrait dire c'est ça la thèse de cœur. Voilà. Convertissez-vous. Voilà. Le royaume s'est approché. Donc au cœur de l'être humain, il y a cette inversion, cette conversion. Il s'agit donc d'inscrire la généalogie biblique de l'homme dans une anthropologie contemporaine de la corporéité, et ça signifie qu'on marque, au sens marqué, n'est-ce pas, noté, hein, qu'on marque au sein même de cette anthropologie les moments et les lieux où une conversion est en jeu. Les moments et les lieux où au sein de notre corporéité, une conversion est en jeu. Et c'est là où l'anthropologie devient théologique. Où des décisions se prennent. Par exemple, parmi les multiples modèles, de couples, etc., qui sont proposés, où réémerge subitement l'option, voilà. Pour quel état de vie? Et que veut dire, au sein d'une anthropologie de la corporéité, état de vie? Pour le moment, je dis, la tradition chrétienne développe surtout deux. Mais on voit bien, n'est-ce pas? Il y a une difficulté autour de ça. L'enjeu est le débat au sujet de la vie, logos, et de l'homme. Disputatio, de homine. Sur l'homme. Débat qui n'existe pas justement dans les deux modèles précédents. Dans les deux modèles précédents, vous avez le refus mutuel ou vous avez le modus vivendi, voilà, on s'arrange, voilà. Et il y a une frontière nette entre deux perspectives. Ici, il y a débat. Et quatrième élément, le débat est difficile et exigeant. Et il veut apporter une certaine solution au problème posé. C'est-à-dire, il est difficile parce que impossible à régler globalement, c'est-à-dire de manière a priori, voyez, mais exigeant des compétences particulières dans telle ou telle science humaine. C'est ça, au fond, le problème de la théologie. Quelqu'un comme Karl Rahner l'a très, avec beaucoup d'humilité, noté. Le problème de l'anthropologie théologique, c'est-à-dire c'est un problème souvent de compétences, parce que c'est clair, on ne peut pas être compétent dans tous les éléments. Alors, je donne ici des exemples, voilà. Comment gérer la proximité entre le Père selon l'Édipe et le Père selon la foi? C'est pas si évident que ça, vous voyez. Comment gérer cette proximité? Même la loi, à travers les nous est présentée dans la Bible à travers des représentations différentes. Nous avons d'un côté, dans l'anthropologie biblique, évidemment, j'ai dit, les représentations bibliques de la loi. Les 10 lois, les 10 paroles, et ensuite les évolutions dans le Lévitique, etc., etc. Et de l'autre côté, loi n'existe plus comme terminologie dans l'anthropologie profane. On a normes, on a règles, on a système au pluriel. Mais il y a un rapport ici, parce qu'au fond, dans les deux cas, il s'agit toujours d'une expérience très fondamentale de dépouillement de l'imaginaire pour accéder à la vérité de l'existence. Oui. Donc la conversion. Alors, troisième point pour expliciter donc ce modèle, après avoir... Il y a un principe, donc l'homologie structurelle. Il y a les quatre temps que je viens de développer. Comment concevoir le rapport entre anthropologie profane et anthropologie théologique, finalement? Il faut d'abord dire oui, je l'ai déjà dit tout à fait au début, à la thèse que l'adjectif théologique particularise irrémédiablement l'anthropologie tenue par les chrétiens. Ça, c'est le point de départ. Et on ne peut pas en sortir de ça. C'est ça la difficulté du débat actuel. Il faut d'abord reconnaître la particularité de notre positionnement au sein même du pluralisme des anthropologies et des perspectives et des approches. Ça, c'est le point de départ. La réponse est oui. Et cette particularisation est même nécessaire. Elle vaut pour tous, chrétiens ou non, agnostiques, athées et autrement croyants. Pour tous. Dans le meilleur des cas, et là encore, nous n'avons pas le monopole d'emblée, dans le meilleur des cas, particularisation signifie une certaine manière de se rapporter et de s'ouvrir à l'universel. Une certaine manière de se rapporter et de s'ouvrir à l'universel à partir d'une reconnaissance franche et nette du point de départ qui est le nôtre. Qui est le nôtre? Donc voyez, ça fait muter l'idée de l'universel. On n'est plus au niveau d'un universel abstrait ici ou d'un présupposé universel. Vous voyez, une sorte de présupposé triomphaliste. Oui, le catholicisme est universel. Et hop, en avant. Voilà. On va manifester. Voilà. On est en droit. Voilà. Et non, je veux dire, c'est pas la manière de procéder de Jésus de Nazareth. Un certain rapport à l'universel, c'est ça l'enjeu. Une manière de s'ouvrir. Il y a plusieurs manières particulières, vous voyez, de se rapporter à l'universel. Et l'enjeu contemporain est de provoquer le débat à ce sujet. Quand les chrétiens renoncent à développer une anthropologie insulaire, parce que vous voyez, ce sera la tentation, c'est-à-dire que d'emblée on dit anthropologie théologique et on reste finalement dans le champ biblique et dans le champ de la tradition, et on sort du débat, c'est-à-dire on se rend même pas compte qu'on déploie une anthropologie insulaire. Ce qui serait d'ailleurs contraire au dogme. Oui. C'est le lien, le dogme, j'ai dit, le credo, dans son centre, dit la relation du Christ à tout être humain. À tout être humain. Donc il n'y a rien d'insulaire, mais il y a une ouverture. Et donc, il s'agit d'inscrire résolument dans une anthropologie contemporaine de la corporéité, je redis ici la formule, elle est même en italique, pour y marquer aussi résolument, les moments et lieux de décision et de conversion. Les chrétiens pratiquent alors un certain rapport bien particulier à l'universel et provoquent par là un débat universalisant au sujet de la vie humaine, un débat universalisant au sujet de la vie humaine. Voilà l'enjeu d'une anthropologie théologique. Donc, dans la conclusion ici de ce chapitre, voyez bien les choses que je rappelle, appellent à la modestie, parce qu'il est difficile de se situer uniquement à l'intérieur du troisième modèle. On est toujours tenté de revenir aux deux autres. Vous voyez, on se promène. C'est pour ça que je parle de bricolage. Bricolage ou passage d'un modèle d'exclusion, le premier c'est un modèle d'exclusion, vers un modèle du modus vivendi et le modèle généalogique, et peut-être aussi le passage vers un quatrième modèle dont je vais parler pour terminer cette partie. Donc c'est le chapitre 4 maintenant. Discerner, là il y a une perspective nouvelle qui va venir, et accompagner le travail de Dieu en l'homme. Donc vous voyez là, j'ai pas mis Dieu entre guillemets. Voilà. Alors il y a deux points que je voudrais un peu développer ici. D'abord je dirais une petite réflexion maintenant, une prise de conscience sur les limites du modèle généalogique. Alors, il y a une limite théologique, proprement théologique. Il ne suffit pas en théologie de rester au niveau d'une comparaison de structure. C'est nécessaire, et il y a des structures dans les évangiles, entre les évangiles, entre la Genèse et l'Épître aux Romains, évidemment, je dirais, Paul Beauchamp appelait ça la deutérose, il y a des reprises, des relectures continuelles, il y a des structures fondamentales. Mais on ne peut pas rester à ce niveau-là. Il faut rejoindre les bifurcations, les lieux et moments de décision et de conversion dans une anthropologie de la corporéité. Et ça nécessite qu'on s'intéresse non pas à l'homme en général, mais à tel homme, telle femme, tel père, telle mère, etc., etc. Il y a dans la tradition chrétienne quelque chose qui risque toujours de disparaître et dont le récit est au fond, je dirais, le gardien, le récit comme gardien de la singularité absolue. De la singularité absolue. Et quand Feuerbach parle du genre asexué devenu sujet, il pressent quelque chose comme ça. Mais c'est infiniment trop abstrait. Voilà. Un tel, une telle. Un tel, une telle. Et voyez, interviennent évidemment les termes discernés et accompagnés ici. Discernés et accompagnés. Donc ça, c'est la première limite. Il s'agit donc d'un intérêt de l'anthropologie pour un tel, une telle, pour, c'est-à-dire une finalité, pour repérer le travail de Dieu en l'homme, en telle personne, etc. Alors, ça nécessite, on va y revenir ultérieurement, de préciser cette notion de travail de Dieu en l'homme, de travail de Dieu en l'homme, qui est une notion biblique, tout à fait central. Évidemment, la tension entre travail et repos est absolument centrale. Dans le premier récit de la Genèse, les six jours, Dieu est au travail et il a la perspective du septième jour du repos de Dieu qui contemple toute sa création. Mais vous avez cette extraordinaire formule de Jean 5, 17, « Mon Père travaille toujours ». Et moi aussi, je suis toujours en travail. Alors évidemment, en dernière instance, cette notion du travail de Dieu relève, je dirais, d'une théologie trinitaire. On le retrouve dans la théologie de la création, dans l'anthropologie, bien évidemment. Mais il est du ressort de l'anthropologie théologique, pardonnez la formule presque trop active que je vais bientôt corriger, de faire intervenir ce travail de Dieu en l'homme, de le repérer, le discerner et de l'accompagner. Alors ça, c'est la première limite du modèle généalogique qui est un modèle structural, ou structurel, peu importe. Alors l'autre limite, la deuxième, vient des sciences humaines. C'est au fond l'ambiguïté du logique, généalogique, anthropologique, doctrine dans l'anthropologie. Je vous propose un traité d'anthropologie théologique. Ambiguïté, il faut reconnaître ça. Que signifie finalement le projet de présenter un traité d'anthropologie ? N'est-ce pas finalement, je dirais, le désir qui se cacherait ici, ce serait de vouloir se faire une image de l'homme, justement une tâche impossible à l'époque contemporaine. Pire encore, n'est-ce pas, imposer cette image par le biais d'un traité. Et la notion de traité était à la fois dans l'université médiévale, ensuite moderne, profane et chrétienne, dans les universités catholiques, le moyen par excellence, je dirais presque pour endoctriner, n'est-ce pas, pour préparer les futurs acteurs de pastoral pour qu'ils aient la bonne doctrine, un traité. Voilà, vous voyez qu'il vous résume un peu, je dirais, les choses. Donc il y a un inconscient ici, à la fois individuel et collectif, qui risque de se trahir dans la logique de l'anthropologie. Et il n'est pas aisé de ne pas en être totalement dupe. Voilà. On l'est toujours, un peu nécessairement. D'où aussi, je dirais, les passages entre les modèles. Alors, ça détermine, si vous voulez, je dirais ici, on retrouve au fond de nouveau le centre d'un parcours d'anthropologie théologique. L'enjeu qui se manifeste ici avec force, à cet endroit où il y a le risque de la mainmise, vous voyez, de la pensée sur un tel, une telle, sur la singularité absolue, sur ce travail de Dieu dans l'être humain. Il s'agit de laisser advenir. De laisser advenir. Et c'est ça qu'il faut penser. Le sujet du désir. Et ça suppose, si vous voulez, une déprise, avant qu'il y ait décision. Donc, vous voyez, le modèle généalogique décide beaucoup. Il marque les lieux de carrefour, les bifurcations. Est-ce que je vais m'engager à droite, au milieu, à gauche? Ou quand on est dans un rond-point, n'est-ce pas? Première sortie, deuxième sortie, troisième sortie, quatrième, etc. Voilà. On a à décider, souvent rapidement. Mais là, il s'agit d'abord de déprise. Laissez advenir le sujet du désir. Et ça prend du temps. Ce sujet n'a pas de structure préfabriquée, si vous voulez. Voyez, je reviens à la question de l'absolu de tout à l'heure. De logique ou d'institution à sa disposition quand il doit accéder à lui-même. Solitude absolue. Au meilleur sens du terme. Pas isolement, solitude. Solitude. Personne ne peut accéder à son désir à la place d'un autre. Assez décisif. Par exemple, je dis, laissez advenir. Par exemple, à travers une décision éthique ou religieuse qui décide du tout de la vie. Décision dont le sujet ne peut répondre que seul. Sans garantie préalable. Voilà. Alors, cet événement, vous voyez, c'est là où j'introduis le terme événement. J'ai parlé d'un tel, d'une telle, cet événement de l'accès du sujet à lui-même dans un acte de foi élémentaire n'est pourtant pas anarchique. Anarchique, voilà. Même s'il n'est pas garanti par une structure ou une logique. Vous voyez, c'est pas anarchique au sens où nous serions des êtres uniquement, je dirais, solitaire, vivant en solitude, chacun accédant à son désir. Nous sommes en même temps des êtres de tradition et donc d'institution, de langue, etc. Donc il faut bien distinguer ici les choses. Accéder, laisser advenir, ça veut dire entrer dans un sans garantie. C'est là où la grâce s'introduit. Sans garantie. On peut parler de foi. Advenant à lui-même, le sujet s'inscrit dans une tradition, une institution, une logique. Et à partir de ce point, vous voyez, c'est abyssal d'une certaine manière dans l'être humain, on revient évidemment au modèle généalogique. Voilà, au modèle généalogique. Allez, parce que le modèle généalogique, c'est le modèle de la tradition, finalement. Et de sa revisitation continuelle. Alors, comment ça se met en œuvre? Donc, la mise en œuvre, c'est là où on va regarder un peu de près, je dirais, le plan. La mise en œuvre des modèles dans une anthropologie théologique. Ça veut dire, ce que je viens de dire, c'est que l'anthropologie théologique doit articuler un élément structurel ou régulateur qui se situe du côté du logos, et un élément narratif qui se situe du côté imprévisible des sujets à eux-mêmes. Donc du côté de la vie. Du côté de la vie. Donc j'ai dit plutôt du côté, parce que je suppose l'unité des deux. Voilà. Donc il y a un versant structurel, et là on est du côté du modèle généalogique, c'est-à-dire on a des structures, structures bibliques, structures d'anthropologie profane, on passe de l'un à l'autre, on inscrit des carrefours, etc. On est au niveau des structures. Mais la narration ne fonctionne pas exactement comme ça. Elle se situe, l'essentiel se situe du côté de l'événement et de l'imprévisible des sujets. Alors, l'élément structurel et régulateur concerne évidemment, ultimement, le rapport entre le Christ et tout homme. Le Christ et tout homme. Voilà. Là, c'est-à-dire, saint Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, introduit cette homologie structurelle. Le Christ et tout homme. Premier Adam, le second Adam. Il concerne donc le rapport entre la création et le salut, entre l'anthropologie profane, alors là, j'introduis déjà, j'ai dit, à cette distinction, et l'anthropologie théologique, dans la mesure où l'anthropologie profane introduit un certain type d'ouverture à la pluralité radicale des êtres humains. Il renvoie donc, je dirais, l'élément structurel au modèle généalogique. Alors si vous regardez, on va prendre quelques instants pour ça, le plan que vous avez à la page 5. Donc là, on est sur le plan du modèle généalogique. L'homme créé à l'image de Dieu, radicalement marqué par la fragilité et le péché, mais sauvé par la grâce du Christ. C'est une manière de reformuler, au fond, je veux dire, l'ensemble de la structure biblique à partir de l'Épître aux Romains, en revenant aux données de l'Ancien Testament, etc. Et vous voyez, comprendre la structure de l'expérience du salut dans le cadre de l'anthropologie contemporaine. Donc l'enjeu de cette partie, de cette deuxième partie, sera d'une certaine manière de rapatrier l'anthropologie biblique dans le cadre d'une anthropologie de la corporéité contemporaine. Donc ça, c'est le modèle généalogique. Alors, on continue à la page 25. L'élément narratif, maintenant, du côté du bios, l'élément narratif concerne le rapport du Christ et du pneuma en nous. C'est plus le rapport du Christ à tout être humain, mais le rapport du Christ au pneuma en nous. Vous voyez, la tradition biblique identifie quelque part le désir dont je parlais à l'instant, sans garantie au pneuma, l'esprit qui souffle où il veut. Cette profondeur abyssale de l'être humain. Voilà. Il y a un rapport intime entre l'accès du sujet à lui-même dans la société contemporaine et le travail du pneuma. Et ça, je vais vous le développer dans la troisième partie du cours. Donc, vous revenez à la page 5. L'accomplissement de l'homme dans la force de l'esprit, entrer dans l'expérience du salut, un itinéraire individuel et collectif. On est donc sur le plan narratif ici. Donc, avec la désignation du moment présent, l'homme comme un être itinérant, la vie de l'homme sous la conduite de l'esprit, l'homme dans la patience de Dieu. Voilà. Alors ça c'est, si vous voulez, je dirais une première distinction. J'ai déjà développé, si vous voulez, le plan de la première partie du cours. Alors il faut corriger, c'est pas la page 8, c'est la page 11, où j'avais déjà parlé de la première partie du cours. C'est-à-dire où il s'agit de préciser l'entrée christologique, la notion du salut, donc le titre de la première partie du cours, la perspective christologique de l'anthropologie théologique, élaboration scripturaire et doctrinale d'une problématique contemporaine du salut. Alors, dernière petite remarque avant de conclure rapidement toute cette partie, cette longue partie d'introduction. Il s'agit aussi d'introduire, et c'est sous-entendu dans les termes, discerner et accompagner le travail de Dieu en l'homme, une perspective pastorale. Discerner et accompagner, c'est une manière de définir ce que c'est l'activité pastorale de l'Église. C'est ça, au fond, sa tâche concernant l'homme, pourrait-on dire. Il y a une seule chose, on peut pas. Il y a l'Eucharistie, il y a la liturgie, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans l'Église. Mais au cœur de tout cela, il s'agit quand même que l'Église prétend accompagner et discerner le travail de l'homme dans l'être humain. Le ministère pastoral de toute l'Église. Et ça suppose une articulation, si vous voulez, entre le dogmatique et le pastoral. Entre le dogmatique et le pastoral. Le versant dogmatique se situe plutôt du côté de la structure, du logos ou du côté de la régulation. Donc du côté du symbole. Voilà. Le versant pastoral se situe plutôt du côté du récit. Des événements qui se produisent dans les existences, dans les sociétés, et de l'accès des sujets à eux-mêmes dans la société contemporaine. Dans la société contemporaine. Ça, c'est le versant narratif, plutôt pastoral. Donc, on peut définir la pastorale comme suit. Le discernement et l'accompagnement du travail de Dieu en l'homme. Mais évidemment, pour pouvoir discerner et accompagner, il faut quelques règles aux critères de discernement qui se compose à partir de la rencontre, jamais oublier ça, entre anthropologie profane et anthropologie théologique selon le modèle généalogique. Voilà, ça vous donne un peu, je dirais, la méthode complexe. C'est au fond, je dirais, le cours le plus complexe aujourd'hui en théologie dogmatique et systématique, c'est le cours de l'anthropologie pour les raisons que j'ai essayé de vous faire comprendre. C'est pour ça que j'ai tenu à vous proposer une longue introduction. Alors, dans les quatre derniers points, dans la conclusion, donc vous avez une sorte de résumé très très rapide. Au fond, la difficulté, ce que j'ai dit dès la première séance, la difficulté de la particularisation du discours de l'anthropologie théologique est une difficulté ancienne, déjà à l'époque de l'hellénisme. C'est une difficulté ancienne que l'existence d'une anthropologie chrétienne nécessite évidemment recomposition continuelle. Pourquoi elle est ancienne? Parce que dès que vous prétendez à un rapport entre le Christ, Jésus, Christ, donc historiquement situé, ayant la fonction de Christ et de Sauveur, en raison de la résurrection, ça relève de la Christologie, si vous prétendez à un lien entre lui et tout être humain, alors vous êtes en histoire. Et donc dans une fragilité fondamentale, et il faut continuellement reconsidérer les choses, ce qui produit évidemment les grandes étapes que j'ai déjà montrées de l'anthropologie théologique. Cette difficulté particulière, il y a une difficulté particulière de la situation actuelle. Elle n'est pas comme, je dirais, le IVe siècle, le débat avec le pélagianisme, au XVIe siècle avec la réforme. La situation actuelle est particulière. Et pour la raison, d'abord, le lourd héritage du discours chrétien du salut. Voilà, je l'ai montré. Lourd héritage et la situation spirituelle de l'homme contemporain, avec les différents éléments que j'ai analysés, des investissements par rapport au global, l'hédonisme du corps, socialisation discrète, parfois alternative, des valeurs éthiques, vous voyez, qui deviennent fondamentaux, l'authenticité, la modestie, et en même temps la difficulté, l'érosion du discours du salut. On a vu, je dirais dans le chapitre 3, l'origine historique de cette double difficulté avec la Feuerbach et la suite, et une manière de nous situer dans l'histoire. Et je pense que le dernier point a montré quand même l'ambiguïté fondamentale de toute image de l'homme. Et si on reconnaît ça, on est renvoyé quand même au cœur de l'authentique héritage biblique. Ne pas se faire une image, voilà, de Dieu et pas de l'homme. Voilà. Est-ce qu'il y a, on a quelques minutes, je ne vais pas commencer maintenant comme je l'avais un peu prévu, je dirais la première partie, hein, donc la partie qui s'ouvre avec un chapitre biblique, avant d'entrer un peu dans l'histoire de l'anthropologie chrétienne. Est-ce qu'il y a telle ou telle question? On a encore éventuellement 5 minutes, sinon on s'arrête, s'il n'y a pas de questions. C'est peut-être encore trop tôt. Oui. Oui. Page 10. L'organicité du mystère. Oui. Oui, alors ça suppose évidemment un peu, il y a une introduction, je dis à la théologie, mystère chrétien, c'est une manière de désigner, Vatican II fait ça à la suite des pères de l'Église, l'ensemble de la tradition chrétienne, mysterion, et si vous traduisez en latin, ça devient sacramentum, voilà, et Vatican II utilise ces termes pour dire la globalité du mystère. Et donc, on ne peut pas, quand on prend, vous voyez, ça c'est les méfaits du catéchisme universel, où il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir un élément de l'ensemble. Organicité veut dire, c'est un renvoi évidemment à la notion de vie. Hein. Donc c'est une vie, c'est un ensemble où les éléments se tiennent dans un ensemble. Et Saint Irénée a introduit cette idée, c'est lui qui est le premier qui parle du mystère chrétien contre les hérésies. Et pour lui, le symbole baptismal était au fond, il introduit ce terme, raccourci. C'est-à-dire dire en peu de mots, finalement, le tout de ce mystère abyssal. Oui.
J'aimerais évoquer le problème du patrimoine symbolique comme moyen d'universalisation, de communication, de partage culturel.
Oui, c'est-à-dire c'est un concept très ambigu, patrimoine symbolique. C'est un concept très ambigu. Parce que, comment dire, il devient évidemment, je dis, qu'est-ce que c'est le patrimoine symbolique de l'Europe? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Vous voyez, on est tout de suite dans un pluriel. Donc, je me suis exprimé autrement pour éviter un peu pour éviter d'abord, je dirais, ce terme. Il y a une pluralité, évidemment, d'apports culturels. Il y a plusieurs patrimoines, n'est-ce pas? Il y a le patrimoine évidemment chrétien, le patrimoine juif, il y a le patrimoine musulman, mais il y a le patrimoine évidemment grec, hellénistique, philosophique, des tragédies, etc. Donc l'Europe est déjà une recomposition de ces patrimoines. Et alors, quand on dit c'est un espace de communication, oui, mais c'est aussi un espace de métissage d'une certaine manière, de mélange. Donc, le problème de l'identité reste intact d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas engagé tellement sur cette terminologie. Et en théologie, le terme symbolique est aussi déjà un peu codifié. Voilà. Oui.
Page 19,
moi,
je comprends bien la phrase.
Oui. Oui. Oui, c'est ça, le double renversement. Moi, je l'ai un peu déjà expliqué. Voyez, quand vous avez, je dirais, vous comprenez la foi chrétienne, ça c'est la thèse pour la première fois chez Feuerbach, c'est une projection. Une projection, c'est-à-dire, c'est donc un mouvement de sortie. Et au fond, vous avez un double devant vous qui est au fond le renversement du réel. Parce que le réel, dit Feuerbach, c'est au fond un homme scindé en deux, et fragile et faible, et dominé finalement par la création qui l'entoure. Et donc, au fond, se cache dans ce double, au fond, quelque chose qui ne relève pas de Dieu, de ce que l'homme appelle Dieu, mais qui relève de l'homme. Donc, il s'agit de renverser le renversement et de récupérer, au fond, ce qui est projeté à l'extérieur, d'annuler la projection. Ça, c'est le fond, au fond, je dirais, de cette thèse qui traverse ce qu'on appelle la critique de la religion, depuis Feuerbach, Nietzsche, Freud, etc., etc. Et donc, et le christianisme se prête à ça à cause de l'incarnation. C'est ça la force, dit Feuerbach, du christianisme. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de l'humanisation de Dieu. Et quand vous allez jusqu'au bout de l'humanisation de Dieu, alors vous découvrez aussi, je dirais, la possibilité de cette inversion, voilà, cette double inversion. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi cela. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain avec la première partie.